cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 3 avril 1992 à Saint-Jodard. 92.
Continuons cette analyse et dans cette contemplation, d'une certaine manière, dans cette induction qu'on a faite sur l'être en acte et l'être en puissance. Et découvrons bien cette troisième modalité. Laisser le vrai et le bien. C'est l'expérience, hein, c'est pas une déduction qu'on fait. C'est après avoir saisi l'être en acte. La vérité. la vérité saisie dans ma vie intellectuelle. Ce n'est plus au niveau substantiel, c'est dans l'intentionnalité. Le vrai formel a ce mode intentionnel, puisqu'il est la qualité de ma vie intellectuelle. Et il est tout entier relatif à l'être vrai. L'être vrai implique l'essai. Ça qu'il faut bien saisir. L'être vrai, c'est premièrement l'essai. C'est être en acte. Et il faut saisir ce point de vue. L'être en acte, l'essai. Le vrai. Le vrai, qu'on dit ontologique dans la scolastique, dire la réalité existante, c'est la réalité existante qui est vraie. Et c'est celle-là qui est capable d'actuer mon intelligence et de donner la vérité qui qualifie mon jugement. Mon jugement parfait possède la vérité. Je suis possédé par le vrai. Et je possède la vérité. Vous voyez dans quel sens on peut le dire. La vérité, elle est dans mon intelligence, dans ce qu'elle a de plus formel. Elle actue ma vie intellectuelle. Alors, il faut bien saisir comment toujours l'être en acte qui se distingue de l'être en puissance. Qui est l'aspect ultime et le fruit de l'induction. C'est par l'induction que je saisis ce qui est premier dans l'être, c'est l'être en acte. Ce qui est second, c'est l'être en puissance. Et la première modalité de l'être en acte, c'est l'essai, c'est l'être en acte vis-à-vis de la substance. Comprenons bien vis-à-vis de la substance. C'est l'être en acte, je pourrais presque dire, l'être en acte s'enracinant dans la substance. C'est l'essai, puisque seule la substance existe. Les accidents n'existent qu'en fonction de la substance. Donc, l'essai, qui est la première modalité de l'être en acte pour moi, est lié toujours à la substance. C'est Pierre. Parce que c'est pas l'homme, c'est Pierre. C'est la substance sujet. La substance première. Le vrai et la vérité. Alors, je saisis le vrai par la vérité. Génétiquement. Génétiquement, la vérité est première pour moi. Et on le vrai mesure la vérité. Donc la vérité est toute relative au vrai. Et la vérité qualifie mon jugement. C'est très curieux et très intéressant, puisque c'est par là que je vois le lien profond entre l'être et l'esprit, l'être et la pensée. Qu'est-ce qui est premier, l'être ou la pensée? C'est un très gros problème qui est au cœur de toute métaphysique. Vous avez une métaphysique idéaliste, une métaphysique réaliste. Et la métaphysique idéaliste, c'est de mettre la vérité qui qualifie l'intelligence avant le vrai. Vous voyez, point de vue idéaliste, dans la philosophie idéaliste, c'est la vérité qui devient mesure de la réalité. Du vrai de la réalité, du vrai lié à l'essai. Tandis que dans une perspective réaliste, c'est le vrai qui mesure. Si je suis en présence de toutes les idéologies, idéologies font que la vérité formelle qui est donnée dans l'idée sont la mesure de la réalité. C'est pour ça que c'est si important cette distinction du vrai ontologique et de la vérité. C'est là où, de fait, les confusions se font. Dire que pour notre philosophie occidentale, le partage des eaux est au niveau de la vérité. Ce que Heidegger a très bien senti, vous voyez. Il est tombé dans le panneau, mais il l'a très bien senti. Il a très bien senti que le problème de toute la philosophie occidentale, c'était le vrai formel et le vrai ontologique. Et pour lui, c'est intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui pense. Pour lui, ce primat du vrai formel sur le vrai ontologique se fait dans l'analyse même. Dans Platon, le mythe de la caverne. Ça, c'est une interprétation. Je ne serais pas d'accord dans cette interprétation. Mais c'est intéressant de voir comment il interprète cela. Alors, évidemment, Heidegger veut être réaliste. Et donc, il met le primat sur le vrai ontologique. Mais en réalité, si je regarde bien, ce vrai ontologique, c'est penser l'être. C'est pas l'être exister, c'est penser l'être. Or, penser l'être, c'est le vrai qui qualifie l'intelligence. C'est très très cru à ce point de vue-là. La position d'Heidegger, je vous ai déjà dit, c'est comme le Platon moderne. Parce que, pour lui, il veut redécouvrir une ontologie fondamentale. Il est en opposition vis-à-vis de Husserl. Husserl, c'est l'idéalisme, puisque c'est une méta-mathématique. N'oubliez jamais ça. La thèse de Husserl, c'est une thèse mathématique. Husserl est mathématicien avant d'être philosophe. Il a fait une thèse mathématique, un doctorat en mathématiques. Puis de là, il est entré en Russell, il faut passer par les mathématiques pour arriver à la phénoménologie. Et donc, il y a chez lui un primat de la vérité formelle sur le vrai ontologique. Ce que Heidegger ne peut pas supporter. Mais il ne peut pas le supporter, mais il n'est pas assez purifié dans son intelligence pour découvrir vraiment le vrai au-delà de la vérité formelle. De sorte que pour lui, penser l'être, c'est le sommet. Mais penser l'être, c'est l'être dans la pensée. C'est l'être dans la pensée, mais c'est cependant la pensée vers l'être. Oui, il y a la volonté de Heidegger de se rectifier et de mettre le primat de l'être sur la pensée, mais il n'arrive pas à saisir l'être antérieur à la pensée. C'est très très cru. Il y a un nœud. C'est ça qu'on est devant une position qui, à ce point de vue-là, est originale, mais proche de Platon, très différente. Je comprends très bien que Platon est pour lui l'ennemi numéro un, d'une certaine manière. Je considère que toute la philosophie occidentale, c'est une exégèse de Platon. Alors, pour Platon, l'être n'est pas ce qu'est ultime. Pour Heidegger, penser l'être, c'est ce qu'est ultime. C'est pour ça que Heidegger est plus proche de la pensée d'Aristote que Platon. Heidegger reconnaît que entelecheia, c'est le sommet de toute la philosophie occidentale. Donc là, il donne un coup de chapeau à Aristote, en passant. Je dis bien en passant, parce qu'il se considère comme allant plus loin qu'Aristote, en découvrant l'ontologie fondamentale. Et c'est complexe, hein, c'est pas simple. Troisième, donc, 1, 2, 3. Mettre ceci. D'une certaine manière, le bien, l'amour, l'amour est au bien ce que la vérité formelle est au vrai ontologique. C'est-à-dire, analogiquement, tout à fait différent, et cependant quelque chose de commun. C'est la troisième modalité de l'acte. Pour nous, dans une philosophie réaliste, troisième modalité de l'acte. Pour Platon, c'est l'acte suprême, le bien. C'est l'acte suprême. Et il découvrira encore au-delà du bien l'un. Vous voyez, quand nous verrons l'un, on se rappellera que pour Platon, c'est ce qu'il y a de plus élevé, la contemplation de l'un. Mais déjà, la contemplation du bien est au-delà de celle de l'être. Alors que, pour Aristote, le bien est une des modalités de l'être en acte. L'être en acte dans l'ordre de l'analyse métaphysique, quelque chose de plus profond donc de premier par rapport au bien. Le bien n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Il arrive en troisième position, si j'ose dire. C'est ça qui est très curieux. C'est, il y aurait là quelque chose qui serait très intéressant à creuser. Et comment on arrive à poser le bien avant l'être? Et comment, dans une analyse de philosophie première, rigoureuse, le bien n'est pas premier? Et quand je dis n'est pas premier, faisons attention, il est quand même une des modalités d'être en acte. Donc, sous ce point de vue-là, il a une certaine priorité. Puisque même si je le mets en troisième position, il est quand même premier. Puisque c'est faut surtout pas poser ses positions d'une manière quantitative. Comme dans une course. Premier maillot, deuxième, troisième. Alors ce serait le troisième en position. Et qui, non, ils sont convertibles avec l'être en acte. C'est mon intelligence qui précise ces modalités. Mais le bien est l'être en acte. Le vrai est l'être en acte. L'essai est l'être en acte. Hein? Surtout, ne mettez pas un aspect quantitatif dans cet ordre. C'est un ordre au niveau même de l'être. C'est quelque chose de très très particulier. C'est toute la, j'allais dire, toute la plénitude de l'être en acte qui dépasse notre compréhension et que nous sommes obligés de moduler de ces façons différentes. Mais il faut comprendre que l'être en acte est immédiatement présent dans le bien. Le bien, c'est l'être en acte. Le vrai, c'est l'être en acte. L'essai, c'est l'être en acte. Mais cependant, dans l'analyse métaphysique, je suis obligé de montrer qu'il y a cet ordre. L'être en acte, dans ce qu'il a de fondamental, c'est l'essai. L'être en acte, dans ce qu'il a de relation fondamentale avec l'esprit, c'est le vrai. Capable d'engendrer le vrai formel, la vérité. Le fruit du vrai qui s'identifie avec l'être en acte, qui est l'être en acte par rapport à l'intelligence, c'est la vérité dans le jugement, la vérité formelle. Et la vérité formelle, adéquatio intellectus ad rem. Le vrai formel, c'est l'adéquation de l'intelligence pensant avec la réalité. Vous voyez, le vrai formel est toujours pour moi une relation. Le vrai ontologique est toujours pour moi substantiel. Pour que vous voyez bien ça. Le vrai formel, le vrai ontologique est toujours substantiel. Le vrai formel est une relation. Et Il est dans une relation. Puisque de fait, le vrai formel est au niveau de l'intentionnalité. Or, l'intentionnalité n'est jamais substance. L'intentionnalité ne peut être qu'en relation. Ah, vous voyez, c'est ça qui est si curieux et si intéressant, du reste, à voir. Parce que ça montre le rapport entre l'esprit et l'être. Je ne saisis pas l'esprit, premièrement, du côté de la substance. Je ne peux saisir l'esprit que dans l'intentionnalité, et donc que grâce à la relation. Alors, ça explique, voyez, combien les mathématiques ont une emprise sur mon intelligence. Parce que les mathématiques, justement, j'allais presque dire, comprenez, hein, substantifient la relation. Les mathématiques font que la relation devient première. En mathématiques, la relation est première. Donc, je peux dire que les mathématiques substantifient la relation. Et ça explique cette emprise des mathématiques sur l'intelligence humaine. Pour les mathématiques, le vrai ontologique, comme disait Scholastique, c'est-à-dire le vrai en tant que mode de l'être en acte, est second. Pour le métaphysicien, pour le philosophe de philosophie première, le vrai formel qui qualifie le jugement est toujours second. C'est le regard différent du philosophe et du mathématicien. C'est là où on saisit parfaitement le primat de la philosophie par rapport aux mathématiques. Mais on reconnaît que les mathématiques, par rapport à mon intelligence, a une emprise immanente, unique. Ça, il faut bien comprendre ça, parce que c'est tout le problème de notre monde d'aujourd'hui. On ne comprend rien à toute l'évolution de la philosophie si on ne comprend pas ça. Voyez, chez Descartes, les mathématiques sont premières, parce que Descartes cherche la certitude. Et en réalité, Descartes, c'est celui qui veut faire des mathématiques une métaphysique. Il donne la couronne de gloire aux mathématiques, Descartes. Modo geometrico. Tant que je ne suis pas modo geometrico, je suis dans un ordre imparfait. Tant que la métaphysique n'est pas absorbée par le bois mathématique, elle est imparfaite. Et quand elle est absorbée par le bois mathématique, elle acquiert une perfection. C'est extraordinaire, ça. Et ça, c'est Descartes. Et ça fait comprendre l'emprise de Descartes sur la pensée française et la pensée européenne. Parce que je crois que c'est très difficile de comprendre Kant si on ne voit pas Descartes. Kant réagit contre Descartes. Kant est l'ennemi numéro un de Descartes. Ça, c'est sûr. Et pour cela, il s'appuie sur la physique, comme c'est curieux. L'attraction que Descartes subit, c'est les mathématiques. En sens cela Descartes a une noblesse plus grande que Kant, ce qui est vrai du reste. Et Kant s'appuie sur la physique. Et par la physique, il retrouve quelque chose du réalisme que Descartes a perdu. Puisque de fait, c'est ce qui se passe entre les deux, donc il faut bien saisir ça. Et je crois que quand on compare le vrai lié à l'être en acte, immédiatement lié à l'être en acte, ce que les scolastiques appellent le vrai ontologique, quand on voit bien la relation entre ce vrai et la vérité qui qualifie l'intelligence, on voit bien comment l'idéalisme a toujours une séduction terrible sur notre intelligence. Et comment les mathématiques exercent toujours cette séduction sur notre intelligence. Si on n'a pas été séduit par les mathématiques, je crois qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'idéalisme. Il faut comprendre la séduction des mathématiques. Et qui est une séduction, hein, formelle, qui montre le vrai dans tout son éclat. Oui. Le bien, au contraire, c'est tout à fait autre chose. Le bien ne séduit pas. Le bien attire. Les mathématiques sont toujours du côté de la cause exemplaire. C'est la cause exemplaire qui l'emporte sur toutes les autres causalités. C'est la cause exemplaire qui puisque la cause exemplaire n'est parfaite que dans l'intentionnalité. Et la cause exemplaire en mathématiques, elle l'emporte surtout. Et l'immense avantage de la cause exemplaire, c'est que je mesure tout le reste. Et les mathématiques mesurent le réel physique. C'est bien évident. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'emprise des mathématiques dans la pensée, dans la culture. Le mathématicien est roi de la culture moderne. Tandis que la philosophie n'est plus du tout celle qui règne. Elle est sous l'emprise des mathématiques, dans l'ordre de la culture. Et c'est par le bien que le métaphysicien, que la métaphysique va reprendre sa priorité. Le mathématicien est toujours curieux. C'est une application à ça. Faut pas trop loucher, très à voir ça. C'est que le bien, c'est l'être en acte qui reprend toute sa dignité. Parce que le bien est premier par rapport à l'amour. Le bien éveille ma volonté, l'actu, et source de l'amour. L'amour est toujours relatif au bien. Mais sous l'emprise des mathématiques et de l'idéalisme, l'amour voudra passer avant le bien. Et ceci explique tous les divorces dans l'ordre pratique. Mais on touche là chose de très très important, la primauté mathématique sur la métaphysique va impliquer cette séduction de l'amour sur le bien et va expliquer comment on mettra en premier lieu l'amour sur le bien. Et à partir de ce moment-là, l'homme devient mesure du bien. Et en étant mesure du bien, c'est lui qui juge. Donc, le bien n'impose plus et ne réclame plus la fidélité. Vous voyez, c'est ça qui est particulièrement important et intéressant quand on étudie ces diverses modalités d'être en acte, parce que on touche les clés de toutes les déviations. Alors, essayons d'entrer dans ce que représente le bien lié à l'essai, lié au vrai, lié à l'être en acte. Le bien implique ça. Le bien, c'est l'être en acte pour l'homme, pour un être spirituel. C'est l'être en acte pour la vie de l'esprit. Et ce bien attire l'être spirituel. Il l'attire dans la mesure même où il le connaît. La connaissance du bien est une condition sine qua non pour que le bien attire l'esprit. Il faut le connaître. Donc voyez comment le vrai est antérieur au bien. Est antérieur au bien. Puisque pour que le bien exerce son attraction, il faut que mon intelligence le connaisse. Autrement, il n'exerce pas son attraction. Donc, condition sine qua non. Ce n'est pas la connaissance que j'ai du bien qui détermine mon amour, mais c'est le bien en lui-même qui spécifie, qui détermine mon amour. Alors, cette petite distinction est capitale. Si elle était vécue, elle éviterait tous les divorces. Là quelque chose de capital par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde d'aujourd'hui. Je reprends pour que vous voyez bien ça. Vous voyez, c'est saisir cette troisième position du bien qui présuppose le vrai, qui présuppose l'essai. Le bien, c'est l'être en acte impliquant l'essai et le vrai. Et le vrai formel. Ça implique tout cela, le bien. C'est très étonnant. Et ça dit quelque chose de plus que le vrai ne dit pas, que l'essai ne dit pas. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une troisième modalité de l'être en acte, qui est le bien. Irréductible au vrai, irréductible à l'essai, mais présent dans l'être en acte. Le bien, c'est l'être en acte, mais c'est l'être en acte selon une modalité particulière. C'est l'être lettre en acte qui attire l'être spirituel, qui attire la volonté, qui joue sur la volonté une force d'attraction. L'être en acte est fin. S'il est fin, il finalise. Et c'est l'être, c'est le bien qui me montre la manière dont l'être en acte finalise. L'être en acte est capable de finaliser l'esprit. Comment finalise-t-il l'esprit ? Mais c'est le caractère propre de l'être, du bien, donc de l'être en acte en tant que bien, de finaliser l'esprit. Comment finalise-t-il l'esprit ? Il finalise l'esprit en étant connu. Le bien ne peut pas finaliser s'il n'est pas connu. Donc il implique le vrai. Il implique le vrai, vérité formelle. Il faut connaître que cette réalité est bonne pour moi, pour que je sois attiré par elle. Si je ne connais pas que cette réalité est mon bien, je ne suis pas attiré. Je peux côtoyer dans ma vie constamment le bien sans être attiré par lui. Pour pouvoir être attiré par lui, il faut que je le connaisse. C'est très très important ça, vous voyez, parce que ça explique comment l'humanité d'aujourd'hui abandonne sa finalité, abandonne son vrai, son bien, parce qu'elle ne veut plus le connaître. Vous voyez, la faute consiste à ne plus vouloir connaître le bien. Si je ne connais plus le bien, je ne suis plus attiré par lui. Et je construis ma vie à partir de la cause exemplaire, grâce aux mathématiques. Les mathématiques ne sont pas fautives de ça. C'est l'homme qui a opté pour la cause formelle plutôt que la finalité. Pourquoi ? Parce que en optant la causalité finale, la causalité formelle, la cause exemplaire, l'homme reste maître de lui-même. Quand il découvre le bien, il accepte d'être tout entier ordonné vers le bien. Et donc, il accepte d'être soumis au bien, de vivre l'attraction du bien. Et vivre l'attraction du bien, c'est accepter de se soumettre au bien. Voyez l'orgueil, hein. Au plan métaphysique, c'est très intéressant de voir où gît l'orgueil. C'est ne pas accepter d'être soumis au bien. Et c'est de choisir la causalité exemplaire à la place de la causalité finale. Parce que grâce à la causalité exemplaire, je suis la mesure de ma vie. Je suis la mesure des réalités. Tandis qu'au contraire, si j'accepte que le bien m'attire, je suis mesuré par lui. Donc je suis relatif à lui. Je ne suis plus premier. L'orgueil, c'est vouloir être premier, d'être mesure. Mesure de tout le reste. c'est quand même très très intéressant de saisir cette troisième modalité de l'être en acte qui est le bien. Alors qu'est-ce que c'est que l'être en acte qui est le bien? Je peux pas le définir, mais je peux montrer que l'être en acte qui est le bien, c'est l'être qui exerce sur ma volonté son attraction. L'être bien est capable de me finaliser, de finaliser l'homme en tant qu'il est un être spirituel. C'est l'être bien qui me finalise. Donc, c'est l'être en acte dans ce qu'il a de tout à fait particulier, puisque l'être en acte est fin. Et pour exercer sa finalité, il faut que il soit regardé comme bien. Il faut qu'il se présente comme bien. Alors à ce moment-là, il m'attire et il exerce sur moi sa finalité, sur l'esprit, sur mon esprit, sur moi en tant qu'esprit. Et donc, en tant qu'ayant un appétit spirituel. Et l'appétit spirituel, c'est la volonté. L'être en acte en tant qu'il m'attire est le bien. C'est bien l'être en acte dans ce qu'il a de tout à fait propre. Il est fin. Mais pour comprendre la finalité, il faut la dépasser en saisissant le bien. Et la finalité regarde la causalité et le bien regarde l'être. Or, la finalité, c'est une relation. L'aspect substantiel de la finalité, c'est le bien. L'être seul est substance. L'être seul est bien. Et c'est l'être en acte, c'est-à-dire dans sa capacité de finaliser. C'est pour ça que c'est si important de saisir le point de vue du bien. Parce que en saisissant le bien, vous pouvez comprendre ce qu'est la finalité. Mais tant que vous ne saisissez pas ce que c'est que le bien, vous ne saisissez pas ce qu'est la finalité. La perte de la finalité s'est faite en ne regardant plus le bien. Celui qui ne regarde plus le bien ne sait plus ce que c'est que la finalité. Il y a donc une connaissance du bien qui, au plan métaphysique, est absolument indispensable pour sauver la finalité. Je ne sauve pas la finalité par le vrai. Je ne sauve pas la finalité par l'essai. Je la sauve en saisissant le bien. Puisque le bien, c'est ce qui exerce sur mon esprit cette attraction. Le bien m'attire. C'est en comprenant cette attraction que vous saisissez le bien. Vous ne pouvez pas saisir le bien en dehors de l'attraction. C'est pour ça qu'Aristote Christ attira le bien, c'est ce que tous désirent. Donc le bien, c'est ce qui attire, ce qui exerce sur moi cette attraction. Le bien, c'est ce que tous désirent. C'est pas une définition, c'est l'effet propre du bien. Parce que le bien en soi, c'est l'être en acte. Et vous voyez, je définis le bien par l'être en acte. Et donc je vois bien que l'être en acte est antérieur au bien, au point de vue de mon intelligence du bien. Et là, je montre l'erreur de Platon, qui met le bien avant l'être en acte. Pour Platon, le bien définit l'être en acte. Pour Aristote, l'être en acte définit le bien. Alors vous voyez comme c'est intéressant ça, et comme c'est important. Parce que si je mets le bien antérieur à l'être en acte, je le mets antérieur à la vérité. Je dirais donc que le bien suscite un amour aveugle. Je me perds dans l'amour. Et alors, on explique là, vous voyez, comment toute la tendance du rationalisme va pénétrer. Parce que si le bien attire dans une totale obscurité, le bien va être pour mon intelligence, pour ma raison, un mal. Il va être source d'obscurité. Il va donc tuer mon intelligence, ma raison. Disons la raison. Je dis ça pour comprendre la position hegelienne. La position hegelienne ne peut, elle présuppose la position platonicienne, où le bien est au-dessus de l'être, est au-dessus du vrai. Et donc si le bien est au-dessus du vrai, aimer, c'est me mettre dans l'obscurantisme total. Il faut donc bannir l'amour pour rester dans la lumière. Vous voyez comme c'est anti-johannique. La lumière conduit à l'amour. Je dis ça parce que c'est très important pour nous de saisir que seule la philosophie qui analyse l'être en acte dans la philosophie de l'être montre comment le bien présuppose l'être vrai et donc présuppose la lumière. C'est par la lumière que j'aime, et non pas niant la lumière, j'aime. Ça, c'est le romantisme. Le romantisme nie la lumière pour aimer. Et c'est contre le romantisme que l'hegelianisme s'oppose. Un romantisme allemand qui est très fort. Alors que si je comprends que l'être bien, l'être en acte bien, présuppose le vrai. Le vrai est présent dans le bien. La lumière est présente dans l'amour. Il n'y a pas d'opposition dialectique entre lumière et amour. L'amour brille. partir.